Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'accessibilité fait depuis des dizaines d'années déjà en France l'objet de lois, obligation d'offrir des prestations pour favoriser l'accueil, l'inclusion des personnes handicapées dans l'espace public, un cadre légal pour lutter contre la discrimination. Cet impératif, condition du processus d'autonomie, s'amorce souvent au moment de la prise en charge médicale engagée par les équipes soignantes, spécialisées notamment dans la réadaptation. Ces professionnels de santé accompagnent leurs patients semaine après semaine, mois après mois, pour aller vers la compréhension de ce corps différent, la récupération de certaines aptitudes et l'acceptation de leur nouvel état. Des patients, leur entourage, des soignants, et quelle réponse la société offre-t-elle à ces personnes dont l'activité physique ou mentale est transformée ou réduite de façon durable? Faciliter les déplacements, accéder au cadre de vie, aux services, à la santé, l'éducation, l'emploi ou des infrastructures culturelles, retrouver ces marques dans la vie de tous les jours, dans un logement adapté. L'accessibilité s'appuie sur des moyens matériels comme humains, tributaires bien sûr de leur financement. Et cet effort en faveur de l'autonomie des personnes reste étroitement lié à un autre facteur, la volonté politique, des actes qui, au-delà des promesses, traduisent le regard qu'une société porte sur celles et ceux qui ne marchent plus ou qui ne voient pas. Handicap, accessibilité, avec nous en studio le docteur Alexis Schnitzler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin en médecine physique et réadaptation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches en région parisienne. Vous exercez dans cette même structure de Garches au sein du pôle handicap rééducation. Gaëlle Le Bornec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, neuropsychologue, également présent avec nous en studio, Patrice Tripoteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint de l'APF France Handicap et tout à l'heure, on va retrouver en Côte d'Ivoire le professeur Daniel Allot, chef de service de médecine physique et réadaptation du CHU d'Angré à Abidjan. En fin d'émission, nous évoquerons l'opération à cœur ouvert réalisée hier à Bamako, centre hospitalier mère-enfant, le Luxembourg. C'est une première dans l'histoire du Mali. La petite opérée s'appelle Fatou, elle a 6 ans, elle a été opérée hier et ce matin, elle va très bien. Nous serons en ligne avec le docteur Baba Ibrahima Diarra, chirurgien cardio-thoracique et vasculaire. Il a assisté hier le professeur Baron dans cette opération. Et vos questions, vos témoignages, on les attend à notre numéro, le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Avant donc de lancer cet échange sur l'accessibilité pour essayer de comprendre si les engagements, les déclarations d'intention des pouvoirs publics notamment sont à la hauteur, comprendre l'impact bien sûr de cette accessibilité sur le travail aussi des soignants et bien sûr la santé des patients. Tout d'abord, si vous le voulez bien, on va revenir sur l'essence de votre spécialité, docteur Alexis Schnitzler, grand public qui n'est pas forcément familiarisé avec cette médecine physique et de réadaptation. Qu'est-ce qu'on fait dans cette spécialité?
Alors c'est une spécialité au même titre que la neurologie ou la chirurgie orthopédique. Dans cette spécialité, on prend en charge des patients qui ont une situation médicale parfaitement connue, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien sévère, une paraplégie traumatique. Et nous utilisons tous les outils de la rééducation pour essayer de diminuer le plus possible l'impact des déficiences, c'est-à-dire faire travailler les muscles, faire travailler l'intelligence, la mémoire. Et puis on a une action de réadaptation, c'est-à-dire qu'en fonction des séquelles présentes chez nos patients, on va essayer de les accompagner au mieux sur le plan social et sur le plan de l'adaptation pour leur donner la qualité de vie la meilleure possible.
Alors depuis le début de cette émission, on parle de handicap. Ce fameux terme, Patrice Tripoteau, désigne des situations très diverses, hein, des situations très différentes. Comment justement le définir quand on parle d'accessibilité? Ça s'adresse à qui?
La définition du handicap qui est portée aussi sur le plan international, c'est à la fois les facteurs personnels, donc ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire comment après un accident par exemple, eh bien on va essayer d'améliorer au maximum la situation de la personne, mais il restera souvent des séquelles hein, qui sont multiples et diverses, mais aussi pour nous la définition de handicap c'est une interaction avec l'environnement. Et donc, pour nous, une situation de handicap est l'interaction entre les facteurs personnels et l'environnement. Je me déplace en fauteuil roulant. Pour venir ici, j'étais pas en situation de handicap parce que tout est accessible et je suis dans ce studio d'une manière naturelle comme tout le monde.
Donc, quand on est bien dans son environnement, de ce fait, on est, on va dire, plus handicapé ou moins handicapé?
Non, on n'est plus en situation, c'est pour ça qu'on utilise le terme de situation de handicap, on n'est plus en situation de handicap. Ça n'enlève pas le fait que je ne peux pas marcher. Mais
c'est autre chose.
C'est autre chose. Et donc, c'est l'interaction. Et à certains moments, je peux être en situation de handicap.
Le rapport à cet environnement. Docteur Alexis Schnitzler, vous travaillez dans cette structure, l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne. En général, la durée de la prise en charge est assez longue sur place?
Sont les prises en charge sont toujours très prolongées. Elles dépendent beaucoup et du niveau de déficience, donc la pathologie en elle-même, et de l'environnement une fois de plus. Nous, nos techniques de rééducation, elles ont fait preuve de leur efficacité dans les, on va dire, 3 à 6 premiers mois qui suivent une lésion neurologique. Après, on sait que la stimulation est quelque chose de très important qui peut se faire par la rééducation mais par d'autres biais. Et donc quand les hospitalisations peuvent être prolongées au-delà de ces 3 à 6 premiers mois, c'est qu'on est vraiment dans une problématique de retour à domicile, d'organiser les choses bien à la maison pour que les gens soient en bonne condition.
Alors, la prise en charge du corps, de l'environnement et de ce qui se passe aussi au niveau du mental, Gaëlle Le Bornec, cette prise en charge psychologique, est-ce que c'est quelque chose de systématique pour ces patients?
Alors, systématique, non. C'est à la demande du patient. Enfin, c'est proposé régulièrement par les équipes, par les médecins notamment. Et c'est en fonction de la souffrance du patient, de son désir de voir ou non un psychologue. C'est jamais imposé. C'est proposé, mais pas imposé.
Et justement, la réponse de ces patients, en général, elle est positive?
C'est très variable. Elle est souvent positive. En fait, souvent, on les voit au moins une ou deux fois. Et par contre, elle est très variable dans le temps. Il y a des patients qui vont voir une psychologue plutôt sur le tard.
On parlait tout à l'heure justement de ce séjour prolongé. Donc, on dort, on peut dire on vit dans cet hôpital. Et puis, il y a le moment où on quitte la structure de soins, Gaëlle Le Bornec. À ce moment-là, est-ce que justement, il n'y a pas un travail particulier qui est réalisé?
Il y a un travail particulier qui est réalisé de toute façon tout au long par l'équipe, parce que à la fois c'est effectivement, comme le disait le docteur Schnitzler, essayer de reconstruire l'individu, mais aussi le préparer à la sortie. Donc les kinésithérapeutes, tous les rééducateurs préparent à la sortie également. Il y a une adaptation du domicile qui va être proposée au patient et des week-ends qui vont être organisés pour que le patient se réadapte à son domicile. Mais de toute façon, la sortie est toujours un moment à la fois attendu, parce que le séjour en hôpital est pas forcément bien vécu, mais aussi redouté. Parce que, parallèlement, l'hôpital est quand même très adapté au handicap. Donc du coup, l'environnement, on va le découvrir un peu plus hostile qu'il ne l'était quand on était valide.
Et puis les autres personnes ont un regard plus habitué sur ce handicap par rapport peut-être aussi au monde extérieur.
C'est ça, c'est ce que nous disent les patients. Le regard extérieur est souvent très lourd à porter, alors qu'effectivement, à l'hôpital, on croise autant de valides que d'hémiplégiques ou de paraplégiques.
Alors, structure de Garches, on en parle avec vous, docteur Schnitzler, Gaëlle Le Bornec. Un nombre de places limité, forcément. Est-ce qu'accéder à ce type de prise en charge, on peut le dire, haut de gamme, hein, on parle pas en termes de finances ou quoi que ce soit, mais au niveau des services et de la qualité de la prise en charge, est-ce que c'est, Patrice Tripoteau, quelque chose qui est possible sur l'ensemble du territoire et même, vu le nombre de places limitées, est-ce que c'est tout simplement possible ou facile?
Oui, il existe sur l'ensemble du territoire tout un réseau hein, d'établissements. Alors Garches est une plateforme connue et reconnue et fortement en France, mais il existe d'autres plateaux, donc il y a ce réseau. Il est complété, vous venez de le dire, c'est-à-dire que vous préparez à la sortie, très souvent aussi vous accompagnez déjà les premières semaines parfois, ou quelques mois, les personnes qui sont à leur domicile pour pas les lâcher. Et il existe aussi un certain nombre de services d'accompagnement, ce qu'on appelle des services d'accompagnement à la vie sociale notamment, dont nous, notre association gère un certain nombre. Et donc, très souvent, nos équipes se mettent en lien avec ces structures pour pouvoir, accompagner la personne, continuer à l'accompagner de manière, moins fréquente, puisque la personne vit à domicile, donc on intervient chez elle. Mais c'est un relais. Et puis aussi, les plateaux techniques, ce qui est important, les patients peuvent y retourner aussi à certains moments. Et donc, il y a un suivi dans le temps. Donc, il y a cette interaction entre le domicile et puis l'ensemble des plateaux techniques. Alors, certainement, il manque des places, mais ce qu'il faut voir, c'est aussi, on est souvent, quand ils sont accueillis, on est dans des situations d'urgence. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix de dire on ne peut pas le prendre, puisque la personne, là, il y a une urgence à la prendre en charge tout de suite.
Alors, réadaptation, retour à la vie en dehors de l'hôpital, avec parfois, donc, hein, on l'a dit, des aménagements nécessaires. Et cette illustration signée Raphaël Constant, elle a rencontré Franck Poncin depuis 6 ans. Cet ergothérapeute, membre du collectif Créateurs d'Intérieur, intervient auprès de particuliers, de bailleurs sociaux, pour aménager, réadapter des logements de personnes en situation de handicap.
Pour l'accessibilité des logements, les architectes appliquent des normes PMR collectives, puisque maintenant, au niveau des logements neufs, tous les logements neufs sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Sauf que ce sont des normes collectives qui ne sont pas individualisées et modifiables en fonction de la pathologie ou des difficultés, des capacités, des incapacités du futur locataire ou propriétaire. Et en fait, donc, les architectes n'ont pas la connaissance de la pathologie ou du matériel spécifique, que ce soit des fauteuils roulants manuels, des déambulateurs, des fauteuils électriques. Donc voilà, moi, l'objectif en ayant intégré un collectif, c'est de pouvoir proposer les préconisations et l'aménagement avec la rénovation, avec les entreprises, directement de la demande jusqu'à la finalisation du chantier. Et on travaille directement avec la personne. Le partenariat est beaucoup plus fort et beaucoup plus intime, puisqu'on va travailler beaucoup, pas sur de l'esthétisme, mais sur quelque chose qui va fonctionner. Et là, c'est la personne dans sa situation qui va pouvoir nous guider beaucoup plus sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle peut faire, sur ce qu'elle veut réussir à faire au sein de son logement.
Et concrètement, à quoi il faut penser pour adapter le logement à une personne handicapée ?
Alors l'accessibilité, ça démarre depuis la rue. Donc il faut prévoir dès la rue l'accès aux boîtes aux lettres, l'accès à l'interphone, un accès jusqu'à l'ascenseur, pouvoir atteindre aussi les boutons de l'ascenseur. Il faut que ce soit adapté pour les personnes malvoyantes aussi, pour pouvoir trouver le bon numéro. Tout ça, c'est ce qui est mis en place actuellement sur les logements neufs, puisque on descend les tableaux électriques, on descend les oeilletons dans les portes d'appartements, on descend les interphones. Donc il y a toute la déambulation intérieure dans les parties communes. Et ensuite, jusqu'à l'entrée de l'appartement, où on a le type de revêtement de sol, la barre de seuil à l'entrée, l'accès aux prises, qui doivent être surélevées, l'accès aux interrupteurs, les largeurs de portes, les portes de placard, qui sont parfois pliantes, parfois coulissantes. Il y a le type de volet. L'idéal, c'est les volets roulants électriques. On a beaucoup de persiennes, on a beaucoup de volets roulants à manivelle. Il y a tout ce qui va être la cuisine, la salle de bain, les toilettes. On parlait tout à l'heure des logements neufs avec des normes PMR, c'est-à-dire que les toilettes font 1m30 de large pour permettre un transfert, sauf qu'un transfert, ça peut se faire en frontal, en latéral, donc ça change la forme et la position de la cuvette des WC. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir en amont avec l'utilisateur, en fait.
Donc ça veut dire que vous travaillez au cas par cas?
Tout est personnalisé, en fait. Et donc là, on va faire une évaluation précise de toutes ses capacités, incapacités, de son matériel, de ce qu'il veut vraiment faire dans ce logement. Est-ce qu'il vit seul? Est-ce que c'est une famille? Est-ce qu'il va y avoir une tierce personne au quotidien pour l'aider? Tout doit être évalué pour ensuite aller aménager ce logement, le rendre accessible, mais le rendre aussi confortable, sécurisé, sans que ça ressemble à une chambre d'hôpital.
Comment se réapprivoiser son logement, son environnement, en fait?
Il faut d'abord qu'il y ait eu une acceptation des incapacités acquises pour pouvoir se projeter dans ce nouveau logement et que la personne retrouve un petit peu ses repères dans ce nouveau logement avec les incapacités acquises. Une fois que le handicap a été intégré, on va dire, ce qui peut prendre beaucoup de temps, et ça c'est plus le travail des professionnels au sein des établissements spécialisés, qu'après on peut l'aider dans l'acceptation de son logement. C'est d'abord un dialogue ensuite des mises en situation, et on ajuste et on avance ensemble avec la personne sur ses envies et sur ce qu'on va réussir à mettre en place pour son mieux-être.
Reportage de Raphaël Constant, docteur Alexis Schnitzler. Comment justement intervient le médecin dans ce diagnostic un petit peu particulier, hein, évaluer les besoins des patients en termes de cadre de vie ?
C'est certainement ce qui est le plus compliqué parce que c'est extrêmement large le cadre de vie. Ça va du tissu social, le tissu familial, l'appartement lui-même, la reprise du travail, la conduite automobile. Le cadre de vie, c'est complexe. Et donc, il faut arriver à avoir une bonne lisibilité de la pathologie en cause, de l'éventuelle évolution, des complications de cette pathologie, des outils et des leviers qu'on a sur le plan de la rééducation et de la réadaptation. Et donc, on se retrouve avec à chaque fois des cas uniques ou des cas particuliers auxquels on doit s'adapter, accompagner le patient, accompagner la famille. Pour essayer de voir quelles sont les priorités en termes de qualité de vie, certains ce sera de pouvoir être devant la télé, d'autres ce sera de pouvoir se déplacer dans une salle de sport. On n'est pas là pour dire ce qui est bien ou pas bien, on est là pour accompagner les patients au mieux.
Alors justement, question du logement crucial, et on va faire un petit retour en arrière avec vous, Patrice Tripoteau. En juin dernier, les députés ont adopté un article de la loi dite Élan, avec un fameux 10% sur la part des logements neufs qui doivent obligatoirement être accessibles aux personnes handicapées. À ce moment-là, ça avait fait beaucoup de bruit, hein, dans l'actualité. Forcément, il y avait eu des réactions, notamment de la part des associations comme la vôtre. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 3 mois après ce vote ?
Bien, le Sénat a voté 30%, donc il va y avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, donc l'Assemblée nationale et le Sénat vont en discuter le 19 septembre, mais on pense que ça ira plutôt au 10%, mais en rappelant que actuellement et depuis ces dernières années, on était à 100%, comme vient d'être dit, hein, dans le témoignage. Ce matin, je lisais une tribune d'une ancienne déléguée ministérielle à l'accessibilité, qui disait qu'on revenait presque 50 ans en arrière, puisque c'est en 66, il y avait un quota de 5%, et en 75, on l'a supprimé. Et plus de 40 ans après, on revient à un quota de 10%. Et pour nous, ce qu'on défend, et pour compléter le témoignage qu'on a entendu, c'est qu'il faut distinguer ce qu'on appelle la conception universelle, l'accessibilité universelle du logement, accessible à tous. Et puis après, l'adaptation, très personnalisée, mais qui viennent là avec des financements, notamment de la prestation de compensation ou d'autres indemnisations que peuvent avoir les personnes, pour là vraiment ajuster à la personne, où là, effectivement, il faut des équipes, comme des ergothérapeutes, qui vont accompagner la personne par rapport à son cadre de vie. Mais plus on a des appartements avec une conception universelle, pensée par tout le monde, etc., moins il y a d'aménagements à faire, et donc moins la personne aussi derrière à rechercher des financements pour financer. Donc l'ensemble est intégré, mais nous battons en tant qu'association pour que l'ensemble des logements, et pas que pour les personnes handicapées, pensant aussi aux personnes âgées notamment.
Alors justement, vous avez dû être reçu par des responsables gouvernementaux, par des instances officielles. Quand ils vous voient et quand ils tiennent leur discours, qu'est-ce qu'ils ont comme, on a entendu hein, la justification au nom de l'économie, de la liberté d'entreprendre, etc. Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent en tant que personne en plus à mobilité réduite ?
Oh bien, c'est de dire que les toilettes ou la salle de bain est trop grande et va au détriment des autres pièces, alors que c'est qu'une question de conception de l'appartement. Donc c'est la première chose. On nous oppose aussi à l'ensemble de la population. Vous vous rendez compte ce qu'on entend, hein, c'est de nous dire vous vous rendez compte des personnes, des Français ont leur salle de bain plus grande que la chambre des enfants. Donc, c'est inacceptable d'entendre ça. Alors que nous disons que le logement doit être conçu pour tout le monde. Alors, on nous dit aussi, mais on peut prévoir l'évolution du logement, on peut faire des travaux. Oui, mais quand on est à l'intérieur d'un logement, qu'on y vit, faire des travaux, casser toutes les cloisons, c'est impossible. Et qui va payer ? Et quel propriétaire va accepter qu'on casse l'ensemble de son appartement pour le rendre adapté à une personne handicapée ? Et que quand la personne handicapée va partir, qu'est-ce qu'elle va faire de ce logement ? Donc, on met tout ça, mais on est ce qu'on dit le pragmatisme social, pragmatisme économique. Nous disons le pragmatisme, mais c'est la réalité vécue par la personne.
Patrice Tripoteau, Dr Schnitzler et Gaëlle Le Bornec, vous restez avec nous. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Les auditeurs de Priorité Santé avec tout de suite en ligne Léonard, qui est en République démocratique du Congo, dans la ville d'Uvira. Bonjour Léonard.
Bonjour.
Léonard en ligne avec nous. On vous écoute Léonard.
Alors, moi, c'est que j'aimerais plaider pour le personne qui va avec handicap, l'inaccessibilité dans les infrastructures, donc des bâtiments publics, entre autres, dans les hôpitaux, les écoles, le bureau de l'État, où nous, en tant qu'handicapés, avec notre façon, ou bien notre handicap, nous ne sommes pas en mesure d'accéder, compte tenu donc des infrastructures, là, comment est-ce qu'on construit des escaliers. Il est difficile pour nous d'accéder, et c'est vraiment un plaidoyer que je suis en train de mener ici, pour que les gens puissent construire de façon à nous adapter ou à nous permettre donc d'accéder au bâtiment.
Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des services publics, dispensaires, écoles, il y a justement ces entraves avec ces marches que vous ne vous pouvez pas donc monter, puisque vous-même, vous êtes en fauteuil roulant.
Moi, je ne suis pas en fauteuil roulant, moi, je suis aussi handicapé.
Oui. Et
ce sont mes frères handicapés qui n'accèdent pas avec des fauteuils roulants, avec des béquilles ou avec des cannes. C'est difficile, par exemple, de monter 3-4 escaliers. Même des maisons en étage, il y a des gens qui construisent des maisons en étage où se trouvent des hôpitaux, des dispensaires ou même des bureaux de l'État.
Léonard, quand vous voulez faire avancer cette cause, vous vous adressez à qui, à quelle personne, à quel pouvoir public, à la mairie ou à un ministère? Vous parlez à qui?
Ah, nous avons déjà été au niveau du territoire, c'est parce que nous sommes dans une zone rurale, au territoire, pour demander au service de l'habitat et au service des infrastructures publiques de demander à ceux qui construisent des ponts.
Des ruptures sur la ligne, on vous appelle.
Oui. Pour qu'ils puissent donc accéder à ces bâtiments-là, qu'ils puissent demander à ces gens-là qui construisent des bâtiments publics comme l'école, les églises, les consorts. De plus, réserver vraiment des moyens d'accessibilité pour nous, les handicapés.
Avoir, par exemple, des passerelles. Et qu'est-ce que vous ont répondu ces personnes?
Ils disent qu'ils ne peuvent pas forcer parce que ce sont des infrastructures, d'abord des anciennes infrastructures et aussi des nouveaux bâtiments. Il faudrait qu'il y ait une loi qui peut permettre à cela.
Aujourd'hui, cette loi n'existe pas en République démocratique du Congo, Léonard.
Ça n'existe pas, cette loi, et nous plaidons pour que vraiment, peut-être au niveau international, que ça puisse vraiment être considéré par l'ONU et que ça puisse être...
Oh, la ligne s'est dégradée de façon brutale. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Léonard. On a bien entendu, vous voudriez porter cette demande justement de loi pour encadrer l'accessibilité dans votre pays, la RDC, auprès de l'ONU, pourquoi pas auprès de l'Organisation mondiale de la santé. On va donner maintenant la parole à un autre auditeur, cette fois du Tchad. On va essayer d'avoir une meilleure ligne, on l'espère en tout cas. Cet auditeur, c'est Osana qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Osana.
Bonjour Caroline et bonjour à tous les auditeurs de Fermia et de Priorité Santé.
Oui, Priorité Santé, on vous écoute, Osana.
Oui, moi je peux dire que les conditions de vie des handicapés au Tchad sont vraiment défavorables. Ils sont souvent marginalisés. Mais ces derniers ne cessent de défier les valides avec leur dur travail dans tous les domaines. Et je peux citer un exemple, le cas d'un ami de Turquie aveugle, mais qui obtient des meilleures notes. Ah, dans les devoirs, il trouve toujours des notes plafond. Ah, il ne nous fait pas cadeau. Et on a du respect à son égard. Et ces personnes handicapées rencontrent beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine des infrastructures. Il n'existe pas de cadre de vie adéquat pour leur épanouissement. Et c'est difficile qu'ils se déplacent. Et l'ami dont je vous parlais le matin, ses parents l'amènent au point d'arrêt de bus. Et à la descente, à l'école, on attrape sa main et on le conduit à l'étage, là où on fait cours. Et un autre cas aussi est celui de mon cousin, qui est aujourd'hui entrepreneur et emploie des personnes bien valides dans son entreprise. Et voyage de par le monde aujourd'hui. Et souvent, ces handicapés sont marginalisés, mais cela ne les empêche pas d'évoluer. Ils se battent pas mal et très dur. Ils sont toujours braves. Et ce que je déplore dans nos textes et lois de la République, il existe des lois qui offrent un certain nombre de garanties, mais pratiquement, l'application pose problème. Ils ne sont pas trop visibles dans l'administration et on ne les confie pas à des postes de responsabilité. mais à force de leur savoir-faire, on fait parfois recours à eux. Il y a les handicapés qui, il y a les handicapés même débutés, artistes et écrivains ici au Tchad. Donc, parfois, ils accomplissent mieux leur tâche que les personnes bien valides. Donc, on interpelle le gouvernement surtout à penser à ces personnes, à la personne en charge d'être handicapée, mais quand on les marginalise, je trouve que c'est pas vraiment bien, quoi.
Alors, vous dites qu'il y a un cadre légal au Tchad, hein, contrairement à ce qu'on vient d'entendre pour la République démocratique du Congo. Et vous pensez aussi, justement, vous citiez cet exemple, aider les gens à la descente de l'autobus pour les conduire en cours, etc. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est aussi à la communauté de prendre en charge, de tendre la main pour que tout se passe mieux dans la vie, dans la société.
Oui, justement. Et souvent, on prend ces personnes comme des gens qui n'ont pas de valeur. Et il y a des personnes aussi de bonne volonté qui ne cessent d'aider ces personnes. Parfois, quand un handicapé veut se déplacer, il y a des enfants qui sont là tout près de lui. Il aide à aller parfois dans des toilettes à résoudre un certain nombre de ses besoins. Mais la majorité des personnes négligent les handicapés. On dirait que c'est comme si c'est eux-mêmes qui ont choisi d'être dans cet état. Donc souvent, il y a une association même de jeunes ici qui passe souvent la sensibilisation auprès des personnes bien valides pour qu'ils viennent en aide à ces personnes. Et je pense que petit à petit, il y a un changement qui est en train d'être opéré ici dans mon pays. Donc on espère au fil du temps que ces personnes ne seront pas continuellement marginalisées comme on est en train de vivre actuellement.
Merci infiniment, Osana, pour ce témoignage de Djamena au Tchad. Patrice Tripoteau, ce qu'on entend à travers ce témoignage, c'est qu'il y a les moyens, le matériel, même la loi, et il y a aussi le regard et la main tendue. C'est essentiel. Ça fait pas partie, à proprement parler, de l'accessibilité, mais ça fait partie de l'acceptation dans cette société.
Oui, mais en amont, pour changer le regard, ce qui est important, c'est aussi que de plus en plus de personnes en situation de handicap soit avec tout le monde, qu'on soit dans tous les lieux de vie.
Dans cette
intégration. Il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, beaucoup sont invisibles. D'abord, il y a beaucoup de situations de handicap invisibles, mais en plus, il y a beaucoup de personnes qui ne sortent pas de chez elles ou qui sont enfermées, donc on ne les voit pas. Donc le changement de regard, c'est qu'elles soient avec tout le monde. Et pour qu'elles soient avec tout le monde, il faut qu'il y ait des cadres qui obligent la conception universelle, l'accessibilité universelle. Et ce qui nous lie avec les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, parce que nous avons un combat commun, les réalités que rencontrent ces personnes, nous pourrions encore en entendre aussi des témoignages équivalents en France. Et donc notre combat est commun, la dignité de la personne elle est commune, et que ça soit en France, en Afrique, pour que les personnes en situation de handicap aient une véritable citoyenneté, il faut qu'on les voit, donc il faut qu'on leur donne un cadre accessible. Donc c'est cette démarche et volonté qu'on a, et c'est comme ça qu'on fera changer le regard. Et on voit bien que là, dans un lieu professionnel, dans une école où là il y a des collègues, ou dans des activités artistiques, culturelles, sportive, des personnes se côtoient, eh bien le regard change et naturellement des choses évoluent. Mais s'il n'y a pas ce cadre massif, parce que on peut avoir ici une bonne volonté, et il peut y avoir à un moment une solidarité, ça c'est nécessaire, c'est important, mais ça ne doit pas être la règle de base.
Gaëlle Le Bornec, est-ce que justement les personnes qui se trouvent encore dans cet hôpital de Garches, hein, je rappelle que vous êtes psychologue, neuropsychologue, est-ce qu'ils expriment justement ces craintes par rapport au moment de la sortie, on en parlait tout à l'heure, mais en particulier, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont peur de ne plus pouvoir aller où ils veulent, ou c'est vraiment ce regard, cette perception par la société qui les inquiète?
Trop là, c'est très multiple, parce qu'ils ont à la fois un deuil à faire sur tout ce qu'ils pouvaient faire avant, donc se repérer dans tout ce qu'ils ne pourront plus faire, et après, dans une deuxième partie, découvrir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont envie de faire, se réaménager par rapport à leur identité, par rapport à leurs proches, et puis, mais c'est surtout à la sortie, effectivement, le regard des autres, c'est-à-dire même leur propre regard, parce que de valide, ils passent à handicapé. Donc déjà, eux, se dire « je suis handicapé », qu'est-ce que je mets derrière le mot « handicapé », qu'est-ce que je me représentais du handicap. Donc, c'est leur propre regard déjà qu'ils doivent gérer. Et puis après, effectivement, le regard des autres. Alors ça, c'est plutôt à la sortie. Effectivement, comme disait monsieur, le côté inconnu, donc avec des regards insistants, des interventions maladroites ou une ignorance, tout existe. Donc ça ne facilite pas, effectivement, Le handicap, en fait, la perception du handicap.
Et est-ce qu'on peut justement évaluer l'impact de cette exclusion quand on n'a pas un appartement qui correspond à nos besoins, quand on se sent freiné dans ce retour à la maison, l'impact sur le moral, mais aussi sur la santé?
C'est énorme parce que ça va freiner énormément de choses. C'est-à-dire quand on a un appartement qui n'est pas adapté, par hasard, on voulait refaire des activités sportives. Si l'appartement n'est pas adapté, on est freiné au niveau de la douche. On va mettre deux fois plus de temps à se préparer. Donc, ça va vite devenir le parcours infernal pour accéder à une salle de sport qui serait éventuellement adaptée. Donc, tout ça, ça va contribuer à l'isolement de la personne et au renoncement.
Docteur Alexis Schneider, comment on fait quand on soigne quelqu'un, quand on le voit évoluer, peut-être sur le plan physique, également sur le plan moral, accepté, et quand on l'accompagne à la sortie, se rendre compte que dehors, eh bien, rien n'est prêt?
Alors c'est un travail qui est long, on commence très tôt à parler de l'avenir, en fait. Les patients sont là, 15 jours après, on les rencontre, en présence de leur famille, et dès cette première rencontre, en fait, c'est l'inconnu. On ne sait pas du tout comment l'évolution se fait. Au bout de 15 jours, on a une vague idée, mais c'est extrêmement difficile. On commence à parler de la rééducation et puis de l'après, si il persiste des séquelles, des déficiences, des difficultés. Et comment on se positionnerait tous ensemble par rapport à ces difficultés. Alors, tous ensemble, c'est nous, équipe de soins. On a notre rôle, et puis les familles qui ont leur rôle, et le patient qui a son rôle. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que la sortie n'est pas quelque chose qui arrive violemment du jour au lendemain, au bout de 3 mois d'hospitalisation, quelque chose qui se construit, et pour avoir un projet de rééducation efficace, il faut absolument qu'on, dès le début, on commence à envisager ces difficultés, ce qui est très violent pour les familles et les patients, parce qu'ils arrivent en rééducation, pour eux, ils viennent pour être guéris. Moi, en 10 ans, j'ai jamais personne qui a été guéri, c'est-à-dire tout le monde est sorti avec au moins une difficulté. Et donc cette difficulté, il faut réussir à anticiper quelle pourra être sa teneur, et ça dépend beaucoup des gens. Voilà, il y a des gens qui, une fois de plus, sont très actifs, donc beaucoup moins. Et ce qui est important, c'est essayer de leur redonner la vie la plus normale possible et la qualité de vie la meilleure possible en fonction de leurs attentes de base d'hommes ou de femmes. L'autre chose qui nous permet de préparer la sortie, qui nous semble extrêmement important, et on se bat sur le plan administratif pour pouvoir continuer à le faire, sont les week-ends thérapeutiques, au décours des prises en charge rééducatives. Les patients rentrent du samedi matin ou du vendredi soir jusqu'au dimanche soir chez eux, parce que nous, il n'y a pas de rééducation à l'hôpital. Et c'est une première, des premiers confrontations à la vraie vie. Et nous, ça nous permet d'adapter nos stratégies de rééducation et de réadaptation.
Alors, réadaptation, accessibilité, on va tout de suite voir maintenant comment cela se passe en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Nous sommes en ligne avec le professeur Daniel Allot. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de médecine physique et réadaptation au CHU d'Angrais à Abidjan. Est-ce que vous disposez de chiffres sur le handicap en Côte d'Ivoire?
Oui, effectivement. Je dirige un service de médecine physique et de réadaptation au CHU d'Angrais. Et nous avons également des statistiques sur le handicap en Côte d'Ivoire, aussi bien de l'enfant que chez l'adulte. Alors, il y a environ en Côte d'Ivoire 1 800 000 personnes en situation de handicap, avec 15% concernant donc les enfants.
Et quel type de pathologie est-ce que vous prenez en charge, professeur Allot, au CHU d'Angrais?
Alors, le service du CHU d'Angrais prend en charge tout type de handicap, aussi bien de l'enfant que de l'adulte. Alors, concernant l'enfant, il s'agit essentiellement d'enfants atteints de paralysie cérébrale avec des désordres neuro-orthopédiques ou d'adolescents, donc la prise en charge d'une scoliose structurelle. Alors, je reçois également à ma consultation des adultes atteints de pathologies neurologiques diverses, telles que les séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, les blessés médulaires avec des tétraplégies ou des paraplégies. Je reçois également aussi des adultes porteurs d'une lombalgie chronique. À ma consultation, c'est la lombalgie qui constitue une proportion aussi importante des consultations adultes.
Et dans le parcours de soins qui est proposé, quels praticiens peuvent intervenir? Quels soins justement sont dispensés par ces praticiens?
À Alors, il faut dire que la particularité de la prise en charge en médecine physique et de réadaptation réside en fait dans son approche à la fois globale et multidisciplinaire. Malheureusement, nous sommes confrontés en Côte d'Ivoire au cloisonnement des services de soins et autres structures privées qui interviennent donc dans le domaine du handicap. Alors, l'effort est actuellement fait pour rapprocher un peu les différents thérapeutes pour ce qui concerne donc le circuit des soins de l'enfant en situation de handicap. Il s'agit notamment donc des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des neuropsychologues et des éducateurs spécialisés. À côté de cela, nous entretenons également de très bonnes relations professionnelles avec les services de rhumatologie, de neurologie, de neurochirurgie et d'autres services qui interviennent dans le domaine de l'handicap dans les autres centres hospitalo-universitaires à Abidjan.
Alors, on parle de réadaptation, on parle aussi d'accessibilité. Qu'est-ce qu'il en est chez vous en Côte d'Ivoire, professeur Daniel Allot? Est-ce qu'il existe des textes, un encadrement légal et juridique?
Alors, il faut dire que depuis il y a 15 ans, nous avons travaillé sur l'accessibilité en Côte d'Ivoire. C'était une étude donc réalisée par notre maître et professeur Nanguy sur l'accessibilité des édifices publics à Abidjan aux personnes en situation de handicap en fauteuil roulant. Alors, l'étude a montré que 28% des bâtiments administratifs, 25% donc des structures de loisirs, 34% des banques et distributeurs de billets présentaient donc une bonne accessibilité aux personnes en situation de handicap. Mais toutefois, il n'existait pas à cette époque de placement en parking réservé donc aux personnes en situation de handicap. Alors aujourd'hui, on note une prise en compte des barrières architecturales dans la politique d'accessibilité aussi bien externe qu'interne, dans les nouveaux édifices et les grandes surfaces avec des parkings dédiés aux personnes en situation de handicap. Alors pour dire que l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à travers des tests réglementaires accompagnés l'amélioration du cadre de vie des personnes en situation de handicap. Je vais juste citer quelques textes. Il y a d'abord donc la loi d'orientation en faveur des personnes en situation de handicap, votée en 1998. L'État également a adhéré au plan d'action continental de la décennie africaine des personnes en situation de handicap, adopté donc à la 38e conférence.
Professeur Allot, on va laisser ce. Excusez-moi de vous interrompre, professeur Allot, on va laisser ce cadre juridique parce que c'est un petit peu compliqué pour nos auditeurs. Je pense que toutes les personnes qui sont particulièrement intéressées peuvent trouver une documentation sur cela. J'ai une dernière question à vous poser, elle est très importante. On parle des pouvoirs publics, de cet encadrement juridique, des pourcentages de bâtiments. Mais pour la vie des gens, est-ce qu'il y a des associations qui les aident ou est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça quand on est ivoirien handicapé de vivre dans la société ivoirienne?
Les personnes en situation de handicap, effectivement, nous avons un peu plus de 25 associations de défense des droits des personnes handicapées qui sont regroupées soit en fédération ou en réseau et ces associations bénéficient donc du soutien de l'État.
Merci infiniment, professeur Daniel Allot. Je rappelle que vous êtes chef de service de médecine physique et réadaptation au CHU d'Angré à Abidjan.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On se retrouve en studio toujours pour parler d'accessibilité, de respect des engagements, de lutte contre les discriminations. Tout ça, ça va ensemble. Patrice Tripoteau, on a entendu des témoignages en Afrique. On a parlé de la situation en France. Au bout du compte, comment expliquer ce grand écart entre la volonté exprimée à travers des textes, hein, des dizaines de textes, des réglementations, des déclarations publiques, des discours, et la réalité, y compris quand vous regardez les gens dans les yeux en leur demandant pourquoi vous changez cette loi alors que cette loi, elle était bénéfique pour nous?
Bien, si on aborde toujours la question de l'accessibilité par une approche un peu compassionnelle, on comprend tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes d'accessibilité.
Hein,
voilà.
Ouais.
Si on l'aborde par des problématiques de santé ou de solidarité, quelquefois il y a des services de transport adaptés dans des villes qui sont gérés par des centres communaux d'action sociale et pas par les services publics de transport. Donc tant qu'on n'abordera par ces biais-là et avec une volonté d'améliorer le sort des personnes en situation de handicap, on n'avancera que par petits pas. Nous, ce qu'on demande, c'est des politiques de transport public qui prennent en compte toutes les populations, personnes et toutes les situations de handicap, y compris des personnes âgées, avec aussi tous les types de handicap. Il n'y a pas que de l'accessibilité physique, il y a aussi l'accompagnement dans les transports qui est aussi important. Les politiques d'urbanisme, il faut qu'ils prennent en compte toutes les populations. Il faut prendre en compte aussi ce qu'on va développer de plus en plus, c'est l'approche de qualité d'usage, c'est-à-dire quel que soit chacun d'entre nous a des différences. On est grand, petit, etc. Comment on peut se déplacer facilement, pas, on peut rester longtemps debout, quelquefois on peut faire que quelques pas, mais on marche quand même, on n'est pas en fauteuil roulant. L'handicap est visible et pas visible. Donc comment on prend en compte la diversité de la population? Et ça, c'est tout un enjeu de formation, etc. Donc c'est une véritable politique publique, mais aussi portée par toutes les organisations professionnelles qui ont aussi le rôle aussi de former l'ensemble des professionnels, qu'ils soient soit propriétaires de bâtiments, cinéma, etc., mais aussi les professionnels du bâtiment, les professionnels des services, pour prendre en compte la diversité des publics. Et donc là, on a un discours universel qui n'est plus seulement donc un sujet du handicap, mais bien plus large, et puis qui peut se transposer dans tous les pays du monde.
Ce qu'on recouvre souvent du terme société inclusive, on va dire. Autre question, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé des bâtiments, des murs, mais il y a aussi des entraves qui sont différentes, docteur Alexis Schneider. C'est l'administration, hein, quand on est en handicapé, quand on doit se retrouver, on parlait du bâtiment, justement, face à un véritable labyrinthe.
Des difficultés administratives, on en a tous. Il faut savoir que quand on est une pathologie qui nous amène à une situation où on se retrouve en difficulté face au monde extérieur, on en a encore plus parce que... Alors, le bon côté, c'est qu'il y a quand même des lois en France qui existent pour accompagner les personnes en situation de handicap. D'un autre côté, il faudrait... trouver tous les leviers pour mettre en branle ces lois et bénéficier de cet accompagnement. Il y a un certain nombre d'associations dans la PFI et qui sont là pour accompagner des services d'aide à domicile, des services de rééducation, mais l'accessibilité physique du monde administratif est la petite pierre de plus qui fait que c'est compliqué. Après, moi j'avoue que dans mes combats du quotidien pour mes patients, je suis plus pour essayer de me battre pour qu'ils aient accès au théâtre, au cinéma, au musée et aux salles de sport que pour accéder à la mairie pour faire la carte d'identité. Je pense que si on pouvait réfléchir à des modèles un peu innovants qui accompagneraient les personnes, on fait à domicile, on prend la photo, on va faire une photo d'identité quand on est très lourdement handicapé sur le plan cognitif ou très lourdement handicapé sur le plan moteur, il faut aller chez un photographe. Enfin, c'est très compliqué tout ça. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait simplifier de base avec des modes d'entrée dans le monde administratif pour les personnes en situation de handicap qui leur faciliteraient la vie de façon globale et qui pourraient être au-delà de l'accessibilité physique à une mairie ou une préfecture.
Gaëlle Le Bornec, meilleure accessibilité, ça permet tout simplement d'aller mieux dans sa vie, d'aller mieux dans sa tête.
Mais oui, parce que ça permet de réduire le handicap. Meilleure accessibilité dit moins de handicap, donc c'est beaucoup plus supportable pour l'individu.
Le mot de la fin, Patrice Tripoteau, est-ce que c'était compliqué pour vous de venir ici dans les studios de RFI? Est-ce que c'était accessible? Est-ce que c'était bien adapté?
Oui, c'était bien adapté, j'ai pu y venir. Et puis s'il y a un dernier mot, c'est aussi, on organise le 26 septembre prochain une journée nationale de mobilisation de l'accessibilité pour illustrer partout en France, dans tous les départements, dans toutes les villes, donc la réalité de personnes qui très souvent sont passées par des centres de rééducation et qui vivent des réalités. Certains sont militants et combattent, d'autres au contraire se sentent complètement isolés. Et donc cette journée de mobilisation, c'est de leur dire aussi qu'ils ne sont pas seuls et que partager les expériences et avancer.
Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir fait ce déplacement pour nous éclairer sur le handicap et l'accessibilité. Patrice Tripoteau, directeur général adjoint de l'APF France Handicap. Gaëlle Le Bornec, psychologue, neuropsychologue au pôle handicap rééducation à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches en région parisienne. Et vous, docteur Alexis Schneider, médecin physique, médecine de physique et réadaptation, je vais y arriver, à l'hôpital Raymond Poincaré, là aussi, toujours à Garches.
Priorité santé sur RFI.
Et on prend maintenant la direction de Bamako. Hier, une grande première médicale dans la capitale du Mali. Pour la première fois, une opération à cœur ouvert réalisée dans l'État d'Afrique de l'Ouest sur un enfant. Ça s'est passé au centre hospitalier mère-enfant Le Luxembourg, donc la capitale, hein, au centre André Festoc. On est en ligne de Bamako avec le docteur Baba Ibrahima Diarra. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chirurgien cardio-thoracique et vasculaire. Alors d'abord, hein, l'opération, c'était hier, tout simplement, question de départ, comment est-ce que ça s'est passé?
Écoutez, j'aimerais d'abord saluer tous vos auditeurs et vous dire que bon, l'opération hier matin s'est très bien passée avec M. Baron. J'ai opéré avec M. Baron qui est venu de Nantes et un instrumentiste malien aidé d'une expatriée. Et dans l'ensemble, l'opération s'est très bien passée, de l'anesthésie jusqu'à la réanimation.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite patiente? De quoi souffrait-elle?
Alors la petite, c'est une petite qui est une petite de 6 ans qui a 18 kilos et qui souffrait d'une ce qu'on appelle une communication interoculaire, c'est-à-dire que il y avait une communication anormale entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Du coup, voilà, à la longue, elle à l'école, elle s'essoufflait, c'était une très large communication. Elle s'essoufflait très vite, elle n'arrivait pas à jouer correctement avec ses amis. Et voilà, nous l'avons reçue en consultation parce qu'elle était très souvent à l'hôpital pour des bronchites à répétition. Donc c'était une chance pour nous de tomber sur un cas aussi avancé et de lui rendre ce service à travers notre métier.
Alors cette malformation cardiaque que vous avez donc réparée, on va essayer d'expliquer simplement aux auditeurs cette opération, quand on dit à cœur ouvert, qu'est-ce que ça veut dire précisément?
Alors les opérations, il faut dire qu'il y a deux types d'opérations, les opérations à cœur fermé et les opérations à cœur ouvert dont nous allons parler. C'est les opérations au cours desquelles nous allons arrêter le cœur. Nous allons court-circuiter le sang qui va dans le cœur, qui va dans une machine appelée une machine cœur-poumon, qui s'appelle la machine de circulation extracorporelle. Et cette machine va jouer le rôle des poumons et du cœur, c'est-à-dire qu'elle va aspirer le sang du malade, l'oxygéner et le renvoyer au niveau du malade. Et nous, nous permettre de travailler correctement à l'intérieur du cœur. Et une fois le geste terminé, avec les techniques de chirurgie cardiaque, nous déclampons et puis normalement le cœur reprend tout de suite à battre normalement.
Vous disiez tout à l'heure, vous avez travaillé avec le professeur Baron, hein, qui est chirurgien thoracique, pédiatrique et cardiaque au CHU de Nantes. Est-ce que bientôt, c'est ma dernière question, docteur Ibrahima Diarra, vous pourrez travailler tout seul avec une équipe malienne?
Oui, ceci dit, c'est notre plus grand souhait et notre objectif, mais je pense qu'il ne faudrait pas aller dans la précipitation, il faut faire les choses lentement et sûrement. Nous espérons très bientôt, dans 2 à 5 ans, être autonomes. Mais ceci dit, il n'y a pas que le côté chirurgical, il y a le côté anesthésie, il y a le côté réanimation, il y a toute une équipe. Il n'y a pas que le chirurgien, et voilà, il y a toute une équipe à prendre en charge, du personnel médical au personnel paramédical. Donc, il faudra laisser le temps à tout le monde vraiment d'y arriver et puis être autonome dans tous les différents secteurs.
Merci beaucoup, docteur Baba Ibrahima Diarra. Merci et félicitations à toute l'équipe pour cette réussite. Je rappelle que vous êtes chirurgien cardio-thoracique et vasculaire à Bamako, au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu aujourd'hui avec nous. Laurence Snow, demain, nous parlons de la circoncision. Vos témoignages, vos questions, notre numéro de téléphone, bien sûr, on attend vos appels. Le 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.